Ok. Ce que j'aimerais faire là, faut que je sois très discipliné. Oui, c'est pas. Ok, ce que j'aimerais faire, c'est une période d'interaction au début, ok, pas à la fin là, parce que les deux dernières fois là, on n'est pas arrivé. Alors c'est, moi je ne veux pas qu'on manque ça. Donc on va faire une période d'interaction. Ouais, ok. Alors, s'il y a lieu là, si vous avez des choses à dire ou des questions à poser, bon, on y va là, ok? C'est peut-être c'est un choc là, c'est une interaction au début là, c'est ok. Oui. C'est pas facile de ne pas confesser nos péchés aussi. Faut considérer l'autre absolution. Ok, non c'est. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Ok. Ce que ça prend, ça prend un engagement. Ça prend un engagement. Ça prend une décision que c'est important de vivre comme ça. Donc, si ça prend un engagement, c'est rien sans une structure. Donc, je peux être engagé comme je veux, là. Puis, si j'arrive pas à dire comment je vais vivre l'engagement, je peux être engagé à 110%, là, ça change rien. Donc, ça prend un lieu, ça prend une structure, ça prend une façon. Et moi, la façon, là, peut-être que là, vous allez dire, c'est rêvé, là. Je sais que c'est pas rêvé parce qu'on le vit. Okay? Si on le vivait pas là, si je vous parlais comme ça là, vous pouvez dire, mais c'est une belle idée, mais c'est cruel parce qu'on ne peut pas vivre ça. Je sais que ça se vit. C'est biblique. C'est pas un rêve, là. C'est pas le ciel, là, si. Bon. On se donne un temps. On se donne un temps. Où on se parle de ce qu'on vit. Ben, vous dites, mais c'est pas ça, la confession, tu sais. Mais oui, c'est ça. La confession, c'est pas juste ce que j'ai fait de pas bon. La confession, c'est ce que je suis. Ce que je vis. Ce que je ressens. Une confession, ça peut être joyeuse. Une confession, ça peut être, comprenez-moi bien, banal. J'ai écouté un match du Canadien hier soir, là, j'étais bien excité, là, parce que ils ont gagné en tir de, qu'est-ce qu'on dit, tir de barrage, tir de, oui, c'est ça, oui. OK, merci beaucoup, c'était important. Ça. OK? Alors, là, les gens vont dire, mais non, il n'est pas ici pour parler de ces choses-là. Comment? Comment? Comment on va arriver à savoir ce qu'on vit si on sépare ce qui est spirituel dans nos vies de ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui n'est pas spirituel? Ça, c'est une bonne question, là. Mais, je dis, on se réunit, on se parle. Dis, qu'est-ce que tu vis? Bah, je vis une bonne semaine, non, ça? Ou bien je suis débordé, ou je viens de vivre quelque chose où j'ai vécu un échec, là. Donc, ça peut passer de quelque chose qui est très superficiel, si on veut, à quelque chose qui est très, très personnel, comme ça. Alors, les gens qui sont là, peut-être vous êtes 3, 4, vous ne pouvez pas faire ça à 20, non. Mais vous le faites sur une base régulière. Juste le fait de se voir et de valoriser la vie de l'autre. De valoriser l'expérience de l'autre. Vous le faites sur une base régulière, ça va changer votre façon de prier les uns pour les autres. C'est ça que Jacques dit. Confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une démarche de guérison dans ça, parce que Dieu nous a créés pour vivre ensemble, en communauté. Honnêtement, c'est pas pour rien que dans la lettre aux Éphésiens, on dit ne mentez plus les uns aux autres. C'est drôle de verset, hein? C'est comme, mais c'est évident, non? Mais c'est parce que nous sommes des menteurs. Nous avons appris à mentir. Constamment. Tout le temps. On a peur de dire la vérité. Nous sommes tous pareils. Peut-être qu'on a grandi dans une famille où la transparence était là. On est peut-être un peu plus avancé. Mais, d'arriver à dire la vérité sur nous-mêmes, C'est une démarche. Et Jésus nous libère pour vivre ça. Donc, ça nous permet, c'est sûr, ça nous permet de dire, je lutte avec mes propres attitudes, avec mes propres limites. Mais ça va me permettre aussi de dire ce que j'aime vraiment, ce qui vraiment me donne de la joie, c'est. Alors, je sais pas si, alors, ça prend un engagement, ça prend un lieu, okay? Donc, ça se fait. Je sais qu'il y a, ok, voilà. Discipliné. D'autres choses? Jonathan? Oui. Oui. OK. OK. C'est quoi la charrue? C'est quoi les bœufs? Hein? Hein? Ben. Non, d'accord. OK. C'est juste. OK. 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 C'était bon? C'était une bonne expérience? OK. Donc ça t'a OK. OK, oui. Mais c'est comme ça avec Dieu, non? Quand Dieu expose notre faute, c'est pas pour nous écraser. C'est seulement lui qui peut faire ça, hein. Il expose la chose qui est vraiment laide en moi. Et en même temps, il me fait espérer. Il dit, continue, tu sais, Dieu ne se retire pas pour autant. Il dit, non, je serai avec toi. Ça va aller. Merci d'avoir partagé ça. D'autres choses? Wow. OK. On résume? Je résume notre parcours. On parlait dans le monde, mais pas du monde. Nous avons commencé notre parcours en parlant de la création. Et comment Dieu nous appelle à refléter son image sur la terre. D'ailleurs, il crée le jardin, il nous place dans le jardin. Il nous dit de nous occuper du jardin, de cultiver et de prendre soin du jardin. Donc, nous sommes dans le jardin avec quelque chose à faire. Parenthèse. Quand Jésus dit, et c'est dans l'évangile de Jean, mais vous allez peut-être me dire le texte, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu. Non, dites-moi pas que c'est pas concret. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. C'est l'acte. C'est notre réponse. C'est notre travail. Toute expression qui est greffée par-dessus, selon nos contextes et nos personnalités, est greffée avec cette expression-là et non pas suite à. C'est comme si on croit au début puis après on fait autre chose. Ce que Dieu veut de moi, c'est que je me confie en lui. C'est ce qu'il voulait au début. Une relation de confiance où il nous donne aussi à entrer dans ce que c'est de vivre à son image, exprimer créativité, être productif, être en relation. Tout cela dans une relation de confiance. Être pleinement humain, c'est de vivre dans cette confiance avec Dieu et de voir restaurer cette confiance même parmi nous, en Jésus-Christ. Verset assez violent. en Éphésiens 2, il a tué la haine. Ben, c'est le langage, la Tob le traduit comme ça, et c'est la meilleure traduction de ce... En grec, c'est littéralement, en parlant de la croix et en parlant de la division entre juifs et non-juifs, il a tué l'inimitié, la haine. Il a défait la haine à la croix. Donc, Dieu qui nous amène à vivre, revivre dans la communion, dans la paix. Alors, dans le jardin, on a quelque chose à faire. On vit ça dans la confiance avec Dieu. On vit ça dans l'harmonie les uns avec les autres. Après, il y a rupture. On est toujours dans le jardin, mais plus dans la confiance, plus dans une orientation vers Dieu. Maintenant, nous sommes orientés plus sur nous-mêmes, ce que nous voulons faire dans le jardin. C'est notre jardin. On ne veut pas que Dieu se présente là-dedans. On veut définir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin? C'est nous qui on décide. Jésus vient dans le jardin, lui qui cultive et prend soin dans la fidélité. Il fait ce que nous avons été appelés à faire. Il réalise notre vocation et en plus, il se donne afin de nous réconcilier avec celui qui nous a donné le jardin au début. Et après, on retrouve notre vocation. On redécouvre ce que c'est d'être à l'œuvre dans le jardin. Et même les gens autour de nous, dans le jardin, voient sel et lumière. Ah, il y a une autre façon de vivre dans le jardin. Il y a une autre façon de se voir, de voir son identité, qui aboutit dans la joie, qui aboutit dans un sens, dans un encouragement. Alors, d'être dans le monde, mais pas du monde, c'est d'être présent, d'apporter tout ce que Dieu nous donne à apporter, et toujours avec lui. Toujours avec lui. Alors, pour moi, c'est le parcours. Est-ce que, encore question, ou, est-ce que ça... Donc, on peut toujours se poser la question, à cause de Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais dans le jardin? Qu'est-ce que nous faisons dans le jardin? Ah, ok, oui, je m'excuse, c'est vraiment, je me suis laissé aller un peu. Je parlais un peu de comment le travail que Dieu nous donne à faire dans le jardin inclut la relation qu'on vit les uns avec les autres. Donc, nous nous trouvons parfois en opposition les uns avec les autres, au moins on se comprend pas à cause de certaines différences qu'on peut vivre. Ça peut être sur le plan de comment on réfléchit, ça peut être sur le plan culturel, Alors, quand Paul écrit la lettre, il écrit à des chrétiens qui vivent en communauté ou qui découvrent ce que c'est de vivre en communauté avec deux groupes assez distincts. Des gens qui ont en arrière-plan non-juif. Ça va, ils faisaient par rapport à Dieu, ils avaient toutes sortes de conceptions de Dieu. Et comment vivre? Ils arrivent à connaître Christ. Ils entendent la bonne nouvelle. Dieu travaille dans leur vie. Ils sont réconciliés avec Dieu. Mais ils ont un arrière-plan non-juif. Il y a des gens qui ont un arrière-plan juif. On a la parole de Dieu. Ils voient que Dieu est vraiment là. Ils sont sensibles par rapport aux lois de Dieu. Toutes sortes de lois, hein. Toutes sortes de principes. Alors, ils tiennent pas vraiment, ils gardent ça de façon sérieuse. Mais ces deux groupes-là, vous pouvez imaginer que ce n'était pas toujours facile. Il y avait même du mépris. Il y avait même du mépris des deux bords. Et quand Paul écrit, il dit « à la croix », Jésus a mis fin à cette séparation entre les deux groupes parce que vous êtes tous réconciliés par la croix. Vous n'êtes pas réconciliés à cause de votre arrière-plan. Vous êtes réconciliés par la croix qui élimine les barrières entre vous. Si vous reconnaissez ça vraiment, que votre identité est d'abord et avant tout à la croix et à la résurrection de Jésus, la haine n'a plus lieu d'exister. Mais Paul utilise un langage qui est plus violent que ça. Il dit « à la croix, Jésus a tué la haine. » Apokteno. C'est le mot pour tuer. On l'utilise pour quelqu'un qui prend la vie d'un autre, c'est ce verbe-là en grec. C'est le verbe que Paul utilise pour dire « il a fait ça à la haine. » Est-ce que ça aide? Référence? Éphésiens 2:15. Merci. C'est à deux places. OK. J'ai pas là. Vous allez voir le. Je peux vous préciser après, mais. C'est radical, c'est merveilleux que dans une société qui se bat avec la diversité, quoi faire avec ça? De savoir que, à la croix, Jésus a défait tout ce qui nous sépare. Je ne veux pas trop simplifier. On a à vivre ça. Mais, quand on voit que Jésus a agi comme ça pour tout le monde. Parce que on habite dans la région de Montréal, quand j'étais à Québec, je détestais ça qu'on donne des exemples comme ça, là. Alors, maintenant, je comprends que je suis vraiment un peu dans le milieu. Mais quand je prends le métro, et surtout quand le métro est bondé, là, c'est vraiment le fun, hein? C'est vraiment le fun. T'es comme ça, là. Ton sac est, je sais pas où, là. Ouais, t'es là, puis tu peux quasiment pas bouger. Tu te demandes ce que les gens pensent autour de toi. Et je regarde. Ça dépend de quelle ligne, puis quelle station, là. Vraiment, là. Qui est là? Et à un moment donné, j'ai pris l'habitude de prier le Notre Père. Notre Père. Je regarde. OK, même si les gens dans ce wagon-là ne connaissent pas Dieu, il veut qu'ils le connaissent. Je peux au moins aller là. Et il est celui qui leur donne la vie, non? Vous êtes d'accord? Donc, quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, ça me force à reconnaître que tout le monde qui est là doit entrer, est appelé à entrer dans cette expérience-là, et je ne peux pas prier en faisant abstraction de ces gens-là. Je ne peux pas dire je t'appartiens, Seigneur. Je suis joyeux dans la vie que tu me donnes, sans avoir à cœur, sans reconnaître que Dieu appelle les gens autour de moi de vivre la même chose. Notre Père. C'est sûr, nous, on prie, on dit, oui, mais David, c'est notre prière. Mais par la croix, par la résurrection, par la proclamation de la bonne nouvelle, c'est au moins une invitation à chaque personne que je rencontre, avec qui je dois partager la porte. Je suis là. Mais. OK? Ça aussi, c'est la puissance de l'Évangile. OK, on voulait parler du travail un petit peu là, c'est-à-dire le travail comme travail dans le sens classique là. sa job. T'sais. T'sais, on l'étudie, puis après, on travaille. C'est ça qu'on... j'ai un ami, là, mon voisin, il dit que... Il a bien dit. Il dit que nous, par rapport au travail, on s'occupe trop de la direction et pas assez du directeur. J'aime ça. Si on est tout le temps préoccupé par la direction que Dieu veut nous donner et pas assez par le simple fait de vivre avec le directeur. Faut y penser un peu. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous invite à le suivre, Dieu qui sait tout de nous, qui nous invite à servir. Il voit notre parcours. Il s'engage à nous aider, à nous diriger, à prendre soin de nous. Donc, ma première préoccupation ne doit pas être est-ce que j'ai bien capté tous les détails, tous les signaux que Dieu m'envoie pour bien savoir exactement où il veut que je vive ou bien que je puisse le servir. Mais c'est ça qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas? Où est-ce que tu veux que... Est-ce que j'ai assez de discernement pour savoir que... Est-ce que vous pensez que Dieu veut qu'on soit stressé tout le temps par rapport à notre capacité de comprendre? Non. Pardon? Non, c'est invivable, oui, c'est ça. C'est comme une pression. C'est comme une distraction même. Alors, si Dieu ne veut pas qu'on fasse cela... Ce qu'il veut, c'est que je sois la sorte de personne qui est prête à aller, à répondre. Est-ce que je suis situé pour répondre? Parce que Dieu, dans son amour, et même j'ose, comme stratège, Dieu qui ne gaspille pas, le Dieu écologique, qui ne veut pas qu'on gaspille nos vies, gaspiller les dons qu'il nous donne, il s'occupe de nous. Honnêtement, devant Dieu, on peut dire « Ah, je suis vraiment nerveux là, je ne sais pas ce qui va se passer. » On peut dire ça, on peut se dire ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que Dieu nous dit en retour, c'est que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous délaisserai pas. Donc, le vrai problème, c'est que est-ce que je peux vivre avec Dieu comme ça? Est-ce que je peux dire « Je suis disponible, je veux te suivre. » Je veux te suivre maintenant, pas juste d'ici un an quand je complète mon parcours d'études. Je veux te suivre maintenant. Et c'est la meilleure préparation pour ce qu'on va faire plus tard. Il n'y a pas beaucoup de critères. Enfin, s'il dit, ben oui, mais dans quel domaine que je peux travailler ou non? Mais personnellement, mais vous allez dire, oh. Personnellement, moi, je ne pourrais pas travailler dans une industrie qui était d'abord et avant tout reliée à la guerre. Personnellement. Il y a des chrétiens qui diraient autrement. Donc, je ne peux même pas vous parler avec autorité sur la question de est-ce qu'on peut travailler pour une industrie qui est reliée à la guerre. Moi, je dis que non. J'ai des collègues qui diraient, mais oui, vous pouvez faire ça. Alors, dans quelle industrie on ne peut pas travailler? Ben là, il y a des choses qui sont vraiment évidentes, je pense, où tous les chrétiens diraient, ah non, je ne peux pas travailler pour une banque. Ah non, excuse. Non, <c'est... rire> Peut-être la question c'est, est-ce que je peux travailler là et servir et rester disciple de Jésus? Est-ce que je peux travailler là et suivre Jésus? À la rigueur, à la limite, ça peut être une église. Est-ce que je peux travailler là et suivre Jésus? Mais non, je veux pas trop simplifier la chose, mais honnêtement, là, ce qui nous préoccupe, c'est de servir dans le jardin. Et c'est Dieu qui est maître du jardin. Ce que lui, il veut de ma part, c'est que je me confie. Juste pour vous donner un exemple. Comme 10 minutes, tu vois. Même pas. Quatre minutes. Trois. Oh! Vraiment? OK. Juste pour vous donner un exemple, comme ça n'a pas de bon sens. C'est dans l'Église, c'est un désavantage, mais on va y aller pareil. Nous, Patricia et moi, on avait à quelque part une conviction qu'on allait travailler dans un contexte francophone. Okay? Comme on vient des États-Unis, c'est pas donné, ça. C'est même les gens qui disent c'est miraculeux. Quelqu'un vient des États-Unis qui parle français, c'est miraculeux. Okay? Je comprends. C'est... j'avais une base, oui, c'est ça. Mais Dieu nous conduit dans une église comme dite dénomination ici, famille d'église, c'est plus cool comme, qui n'a aucun, mais aucune œuvre nulle part dans le monde qui est francophone. Wouhou! OK? Conviction qu'on va travailler dans un milieu francophone, dans une église qui n'a pas nulle part de mission ou d'œuvre francophone. Ça promet. OK? Je vis ma formation. On est là. On vit tout ça. Fini ma formation. Il y a une église, une petite église au sud de la ville d'Indianapolis, dans la partie centrale des États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de francophones là. On nous invite à aller, comme vivre l'entrevue, tout ça, là. Petite église, je sais pas, je vous dis combien de personnes, là, mais ils cherchent jeunes couples. Petite église cherche jeunes couples. Bon. OK? Parce qu'ils voulaient, justement, vivre quelque chose de nouveau. On vit l'entrevue, et eux, dans un coup de folie, là, vraiment, là, ils disent, ben, on pense que ce serait bon que vous veniez ici. Nous, on dit, pouvez-vous nous donner une couple de semaines pour prier? OK. Ah, je termine mes études au séminaire, là. Il y a une église qui dit, on veut que vous veniez, là. C'est là. C'est une bonne nouvelle, non? Mais on est dans le char, on retourne, on a comme 3 ou 4 heures à faire en auto, là. On est comme partagé, là. On est comme, ils cherchent une jeune couple, puis une jeune famille, puis nous, on n'est pas capable de dire yes, OK? On arrive dans notre appartement, le soir même, le téléphone sonne. OK? Pas ma mère, là. C'est quelqu'un qui s'occupe de la mission dans la dénomination où on fait partie, qui nous dit, vous savez que on aimerait ça vous parler d'un projet à Québec. Le soir même. On se couche, parce qu'on est fatigué, on prie. Comme pas un temps de prière, comme vraiment puissant et tout ça. Juste on prie. On remet ça devant Dieu. Et tous les deux, on a un sens que Indiana, là, non. Ce que Dieu va faire, il va nous conduire à Québec. OK. Comment prévoir une telle chose? Dieu est bon. Dieu nous connaît. Je vous ai déjà confessé que j'ai fini mon bac, puis après j'ai travaillé dans un truc comme Walmart. Vous dites, OK, ça n'a pas marché ce coup-là. Mais non, OK? Pr- préparons-nous. Soyons prêts. Et dans une attitude de service, préparons-nous inclut fait de faire tout ce qu'on peut faire pour bien apprendre, pour nous former en fonction du service. Et encore, le travail n'est pas d'abord un poste, mais Dieu sait qu'on a besoin de vivre. Comment? Donc, le sens de sa préparation, le sens de son parcours. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que question par rapport à ça? Excellente question. Oui. Donc, excellente question. Alors, aujourd'hui, on peut avoir l'illusion de faire quelque chose parce qu'on se renseigne sur des situations et peut-être on va signer quelques pétitions ou... on va peut-être dialoguer avec d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que nous. Je ne dis pas que c'est pas important, mais on peut croire qu'on est en train de faire quelque chose quand en réalité on ne fait pas grand-chose. Donc ce que tu soulèves c'est tellement important, mais je pense qu'on doit voir ça comme une discipline. À long terme. Si, par exemple, je suis habité par je viens à saisir un aspect de l'injustice. Peut-être parce que je connais quelqu'un. Peut-être parce que je connais un milieu. Alors, fausse route, je commence juste à m'impliquer dans le fait de dialoguer avec d'autres personnes qui ont ce souci-là et on a la même mentalité, on s'encourage là-dedans. Là, qu'est-ce que ça change? Alors, pour moi, quand je dis c'est une discipline à long terme, souvent que c'est d'abord, il y a une sensibilisation à un aspect de l'injustice et après, je peux me renseigner et je peux dialoguer avec d'autres personnes et après, comment vivre autrement? Quoi faire? Quoi faire sur le plan individuel? Quoi faire peut-être de façon communautaire? Et souvent, ces démarches-là, ça prend des années. Sommes-nous prêts à payer le prix au lieu de tout simplement être vu comme quelqu'un qui est branché sur toutes les questions d'injustice, là? Donc, pour moi, la question, c'est est-ce que je suis prêt à m'investir? Est-ce que je suis prêt à changer ma façon de vivre? Mais est-ce que pour moi, c'est, il y a des groupes, surtout aux États-Unis maintenant que je connais, comme Sojourners, comme les Evangelicals for Social Action, au moins, par rapport à leur perspective, ils sont présents depuis 30, 40 ans dans le domaine, qui travaillent sur certaines questions d'injustice ou de justice, dépendant de comment on veut le voir. Alors, je t'encourage, je pense que qu'on vive ça dans la crédibilité et non pas juste comme une espèce d'artifice superficiel dans nos vies. Et je dirais aussi que, il y a un lien entre la justice que je veux vivre dans ma propre vie, face à Dieu et face aux autres, et le fait de m'impliquer dans une démarche comme ça. Parfois, on sépare les deux, et on vient emballer pour une cause, mais on oublie que l'œuvre de Dieu, à la base, c'est de mettre notre confiance en lui et de vivre devant lui. Enfin, d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochaine comme nous-mêmes. Mais on saute la première étape, on tombe sur le deuxième. Mais que Dieu t'encourage et que qu'il t'utilise aussi. Ouais. Oui. 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 Pauvre, dans un sens, Billy Graham, c'est très inégal parce que par moment, dans son discours et dans sa pratique, il a été quand même assez osé pour aller confronter les questions d'injustice. Par rapport sur le plan racial, par exemple. Il est allé de l'avant, même avant, il était vraiment pionnier pour dire, ben, si moi, je fais un truc ici, tout le monde va participer. Toutes les églises vont participer. Les églises de blanc, les églises de noir, il était dans le sud des États-Unis. Sinon, on y va pas. À un moment donné, il va en Chine. Il décide d'aller en Chine. Puis, à l'époque, là, on faisait pas ça. Okay? Mais il y a aussi d'autres moments quand tu dis, mais c'est quoi ça? Tu sais, par rapport à la guerre, enfin, M. Bush avait le don de faire fusion entre une sorte de foi chrétienne et un nationalisme poussé à l'extrême. Donc, c'est un vrai problème. Et nous, on doit dire non à ça. Okay. Donc, il y a un travail à faire dans le jardin sur le plan de la politique et de l'injustice et la justice. Okay. Okay. Joël, on est 3 minutes. On va aborder 3 sujets différents. Donc. Je soulève un sujet. C'est même pas responsable. Ok. Nous vivons dans une société où les gens disent à répétition, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je vous propose que être dans le monde, mais pas du monde, c'est de vivre différemment, autrement. Ça a rapport au commandement de respecter le sabbat. Je précise tout de suite, dans la lettre aux Hébreux, on dit Jésus est notre sabbat. Donc, le sabbat comme un jour de la semaine, dans un sens, ce n'est qu'une introduction dans une façon de vivre où Dieu nous donne le repos. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Oui? Dieu était fatigué? Non? OK. Si Dieu est fatigué, il n'est pas Dieu. Donc, Dieu peut se reposer parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de travailler. Quelqu'un qui est vraiment riche, là. Vraiment riche. Est-ce qu'il faut qu'il travaille? On voit ça à la télé, là. Les gens qui gagnent le loto, là, le 649, là. Ils jouent des jeux, là, sur des îles, des trucs comme ça, là. Ils n'ont plus besoin de travailler. C'est ça l'idée qu'on passe, là. Ils sont dans le repos. Dieu, il peut se reposer parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de travailler. Il dit de nous, vous êtes mes enfants. Vous pouvez vous confier en moi. Vous ne vivez pas de votre travail, vous vivez de moi. Donc, quand je dis à répétition à Dieu, et on ne dit pas à Dieu là, mais on se dit, je n'ai pas le temps. Trop pressé. La question, c'est qui cause ça? Les Israélites, Israël en Égypte, ils comprenaient qui tournait les vis là. Qui? C'est le pharaon. Qui nous fait vivre comme ça? C'est le pharaon. On le sait là. Mais quand nous, on dit, je n'ai pas le temps, on est en train de parler à qui? Si j'avais plus de temps, qui peut nous donner plus de temps? Dieu. J'ai pas le temps. J'ai pas assez de temps. Je me plains. Soyez reconnaissants pour le temps que Dieu nous donne. Nous prenons des décisions comment on veut vivre, mais ne disons pas à répétition, ne soyons pas dans le monde comme notre monde est, à dire « mon problème, c'est que je n'ai pas assez de temps ». Ce n'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est comment je vis avec le temps que Dieu me donne. Donc, c'est une révolution dans nos vies. C'est une discipline. Mais essayez, pendant une semaine, de ne pas dire la phrase « je n'ai pas le temps ». Et de dire à Dieu « merci pour le temps que tu me donnes ». Et regardez ce qui se passe dans ta propre vie. C'est à la fois humiliant et c'est une libération. Il y a tellement de gens qui vivent des épuisements autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu et qui connaissent Dieu. Et je ne veux pas encore, il n'y a pas une raison pour ça. Il y a des raisons. Mais je vous dis que par rapport au repos en Jésus-Christ, nous avons quelque chose à vivre dans le monde là, qui est comme lumière, comme sel. Parce que nous sommes avec Dieu, le Dieu qui nous donne du repos, parce qu'on ne vit pas de nos efforts. On vit de lui. Voilà. C'est tout.